Laudetur Jesus Christus.
Les dirigeants des pays de l'OTAN ont pointé les défis systémiques que constituent les ambitions de la Chine et de la Russie. Le sommet des retrouvailles transatlantiques s'est tenu hier à Bruxelles en présence du président américain Joe Biden avec une volonté de revitaliser l'alliance. On fait le point après les titres. Des milliers de meurtres auraient été commis aux Philippines dans le cadre de la guerre déclarée à la drogue. La procureure de la Cour pénale internationale a réclamé l'ouverture d'une enquête. Il pourrait s'agir de crimes contre l'humanité. Au sommaire également, la situation sanitaire en Inde. Le nombre de contaminations au coronavirus diminue de façon drastique. 70 000 cas, c'est le plus bas niveau depuis mars dernier. Les autorités ont ainsi levé les restrictions dans certains États. Éclairage dans quelques instants. Et dans notre dossier, retour sur cette page qui vient de se tourner en Israël avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Il met fin à l'ère Netanyahou. À sa tête, Naftali Bennett de la droite radicale qui prend les rênes d'une coalition très hétéroclite. La tâche de l'équipe ministérielle s'annonce ardue. Nous le verrons à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal Hélène Destombes.
Bonjour. L'OTAN avait été mise à mal sous le mandat de Donald Trump qui évoquait une alliance obsolète. C'est pour célébrer les retrouvailles des deux rives de l'Atlantique et pour revitaliser l'OTAN que ce sommet a été organisé. Mission accomplie selon les alliés, très satisfaits de compter à nouveau dans leur rang un président américain sur qui ils peuvent compter et à qui ils ont voulu donner satisfaction, en particulier face à la Chine. Les explications de Pierre Benazé.
Les alliés ont avant tout mis sur les rails leur nouveau concept stratégique. L'actuel est vieux de plus de 10 ans. Il date d'une époque où terrorisme international et Afghanistan étaient au centre des préoccupations de l'OTAN. Ce concept stratégique pour 2030 se focalisera sur les nouveaux défis, en particulier les conflits dans le cyberespace, dans l'espace aussi, par exemple pour la détection et la défense antimissile, ou encore sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les armées. Sur les questions budgétaires, comme tous ses prédécesseurs, Joe Biden rappelle aux alliés européens leur engagement, pas encore complètement tenu, de porter leurs dépenses militaires propres à 2% de leur PIB. Même si les États-Unis ne dictent pas totalement l'ordre du jour, Joe Biden a insisté pour décrire la Russie et la Chine comme les deux défis majeurs pour l'Alliance, deux points de tension pour les alliés, car même si tous sont d'accord pour qualifier la Russie d'adversaire de l'OTAN, la Turquie, en achetant des missiles russes, met les alliés en porte-à-faux. Et la volonté américaine de voir la Chine identifiée comme adversaire par les 30 pays de l'OTAN rencontre un certain scepticisme parmi les alliés, qui acceptent cependant de qualifier les ambitions et le comportement de la Chine comme un défi systémique pour l'OTAN. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et le président américain Joe Biden a promis hier de dire au président russe Vladimir Poutine quelles sont ses lignes rouges lors de leur rencontre prévue demain à Genève. Au lendemain de ce sommet de l'Alliance Atlantique, Pékin a accusé l'OTAN d'exagérer la théorie de la menace chinoise. L'ambassade de Chine auprès de l'UE dénonce ce mardi dans un communiqué une mentalité de guerre froide. De la Chine, il sera également question aujourd'hui lors de la rencontre entre le président américain et les chefs de l'Union européenne à Bruxelles, un sommet pour renforcer des liens distendus sous le mandat de Donald Trump. Les discussions porteront notamment sur les contentieux commerciaux. Au Bélarus, Roman Protasevich a fait une nouvelle apparition télévisée. L'opposant, interpellé à Minsk après le détournement de son avion, s'est adressé aux médias pour répéter qu'il reconnaissait les accusations portées contre lui par les autorités. Des aveux à répétition qui peinent à convaincre. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
C'est encadré par 4 fonctionnaires, dont 2 avaient revêtu leur uniforme, que Roman Protasevich s'est exprimé. L'opposant a répété qu'il était bien traité, qu'il n'avait pas été battu et qu'il avait compris les dommages qu'il avait causés non seulement à l'État biélorusse, mais au pays tout entier. L'ancien rédacteur en chef du média Nexta a encore souligné qu'il souhaitait faire tout ce qui était en son pouvoir pour remédier à cette situation. L'opposition biélorusse, elle, reste persuadée que ses aveux ont été obtenus par la contrainte. Ce n'est pas une conférence de presse, mais une scène de Kafka ou d'Orwell, a tweeté un conseiller de Svetlana Tikhanovskaya, la chef de l'opposition en exil. Fake news, répond le pouvoir biélorusse. Minsk maintient que les confessions télévisées des membres de l'opposition sont faites sur une base volontaire. À la veille de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko fait à nouveau parler de lui, pour éviter sans doute que Vladimir Poutine ne fasse sur son dos des concessions à son homologue américain. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Le premier procès contre l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi s'est ouvert hier en Birmanie. Interpellée le 1er février dernier et assignée depuis à résidence, la lauréate du prix Nobel de la paix est jugée pour non-respect des restrictions liées au coronavirus, importation illégale de talkie-walkie et violation d'une loi sur les télécommunications. Des accusations absurdes selon l'un de ses avocats. La procureure de la Cour pénale internationale réclame l'ouverture d'une enquête concernant les Philippines. Entre 2016 et 2019, de nombreux meurtres y auraient été commis dans le cadre de la guerre contre la drogue menée par le gouvernement et cela pourrait constituer un crime contre l'humanité, Adélaïde Patrignani.
Oui Hélène, le communiqué de la CPI paru hier parle de milliers voire de dizaines de milliers de civils abattus illégalement par la police philippine et leurs complices. Pour la procureure, il existe donc une base raisonnable pour croire à un crime contre l'humanité. Le cas des Philippines faisait déjà l'objet d'un examen préliminaire depuis février 2018. Cette première étape est désormais conclue. Entre-temps, les Philippines se sont retirées de la CPI en 2019. Une décision du président Duterte qui ne reconnaît aucune autorité à cette institution et qui estime l'enquête illégale. La procureure générale a toutefois assuré agir en parfaite conformité avec son mandat. La décision de la CPI a été saluée par les organisations de défense des droits de l'homme. Amnesty International y voit un moment d'espoir pour des milliers de familles. La lumière va pouvoir être faite sur une opération controversée de l'autoritaire président philippin. Lors de son élection en 2016, il avait promis d'éradiquer le trafic de drogue dans l'archipel. Les derniers chiffres officiels font état de plus de 200 000 opérations anti-drogue et 6 000 morts. Mais la police en aurait abattu bien plus, incité à tuer aussi de simples suspects. Les Nations Unies avaient également eu vent d'allégations de torture et d'autres actes inhumains survenu dès 2011.
Merci Adélaïde pour toutes ces précisions. En Inde, la deuxième vague de coronavirus continue de refluer. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est tombé à 70 000, son plus bas niveau depuis le 31 mars. Et même si le pays dénombre toujours près de 3 000 morts par jour à cause de la lenteur du recensement, les autorités commencent à lever les restrictions dans certains états. Le Taj Mahal va par exemple rouvrir demain à New Delhi. Les précisions d'Emmanuel Derville.
La capitale indienne a retrouvé depuis quelques jours un semblant de normalité. La circulation automobile a repris, les magasins ont rouvert et le chef du gouvernement local a levé la plupart des restrictions. Les restaurants peuvent recevoir de la clientèle avec une jauge de 50%. La plupart des régions restent prudentes. À Bombay, les centres commerciaux et les cinémas ont pu rouvrir, mais avec une jauge. Si l'Inde en a fini avec la deuxième vague, nombreux sont ceux qui s'attendent à une troisième vague dans les prochains mois. Une crainte qui s'explique par la lenteur de la vaccination à cause de la pénurie de doses. Le nombre d'injections, qui plafonnait à 2 millions par jour il y a quelques semaines, est remonté hier pour frôler la barre des 4 millions. La campagne a commencé au mois de janvier et seulement 14% de la population a reçu au moins une injection. La vaccination n'est pas toujours gratuite. Certains hôpitaux qui arrivent à se procurer des doses les revendent parfois à plus de 10 euros. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Les autochtones canadiens vont désormais pouvoir utiliser leur nom traditionnel sur leurs documents de voyage officiels. L'annonce a été faite hier par le gouvernement. Ces noms autochtones leur avaient été volés lorsqu'ils avaient été forcés d'intégrer des pensionnats pour y être assimilés à la culture dominante, a déclaré le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino. Cette annonce intervient quelques semaines après la découverte des ossements de 215 enfants près d'un pensionnat autochtone dans l'ouest du Canada. Plus de 5 millions de personnes luttent contre la faim et 400 000 enfants souffrent de malnutrition sévère dans le bassin du lac Tchad où sévissent des groupes djihadistes. L'alerte a été lancée hier par l'ONU qui fait état de la pire augmentation pour la première fois depuis 4 ans. Hier, dans un message à l'occasion de la 42e session de la conférence de la FAO qui se tient à Rome cette semaine, le pape François avait rappelé que les 3/4 de ceux qui ont peu à manger sont des personnes qui produisent des aliments pour le reste du monde. Le Saint-Père a ainsi invité à redessiner une économie à l'échelle humaine. Le pape qui a exhorté à poser un autre regard sur la pauvreté. Les pauvres sont un sacrement du Christ, souligne-t-il dans son message pour la 5e journée mondiale des pauvres qui se tiendra le dimanche 14 novembre. Plus de précisions à l'adresse vaticannews.vr. Une page s'est tournée dimanche en Israël, marquant la fin de l'ère Netanyahou après 12 ans de pouvoir. Le Parlement a voté la confiance au gouvernement emmené par Naftali Bennett et Yair Lapid. Un vote très serré avec 60 députés pour la coalition du changement, 59 contre et une abstention. Le nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, se retrouve à la tête d'une coalition de 8 partis allant de la droite nationaliste à la gauche et qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, inclut une formation arabe. Après 2 ans de crise politique, Israël franchit une étape dans un contexte diplomatique et économique délétère. L'opposition avait décidé de se souder contre Benjamin Netanyahou à la suite des législatives de mars dernier. Elle a atteint son objectif, mais devra maintenant trouver un terrain d'entente sur d'autres dossiers prioritaires. C'est ce que nous explique Frédéric Skilo, historienne spécialiste d'Israël et des relations internationales.
Le ciment de cette coalition très hétéroclite, c'est d'abord l'anti-Netanyahou. Maintenant, est-ce que cela va leur permettre de gouverner ensemble? Ne serait-ce qu'en regardant les deux têtes de ce gouvernement de rotation, d'un côté Naftali Bennett, qui est le premier ministre à avoir une kippa sur la tête, et le premier ministre par rotation, qui deviendra premier ministre normalement dans 2 ans, eh bien c'est le chantre des laïcs. Donc rien que pour cela, il y a d'énormes différences. Mais leur volonté aujourd'hui, ce sont deux choses. D'abord, c'est réparer l'État. Et deuxièmement, c'est réconcilier les citoyens, citoyens juifs, mais aussi citoyens juifs et arabes israéliens.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les grands chantiers qui attendent Naftali Bennett maintenant en termes de politique intérieure?
D'abord, réparer l'État après 2 ans de crise politique, de crise institutionnelle. Benjamin Netanyahou n'avait même pas fait voter le budget depuis 2 ans. Donc le premier objectif de cette coalition, ce sera le vote d'un budget, de rétablir des finances et puis de rapporter à nouveau confiance dans le gouvernement, dans les institutions de l'État, avec des grands chantiers sur le logement, la création de 300 000 logements, un chantier aussi très important en direction du public arabe israélien, avec notamment la reconnaissance de plusieurs villages de Bédouins du Negev, et puis 30 milliards de shekels, donc 3 fois plus que le budget ordinaire alloué aux citoyens arabes israéliens, parce que c'est le deuxième objectif, oui, réconcilier les Israéliens et calmer un petit peu les tensions énormes qui ont éclaté. On a vu il y a quelques semaines avec ces émeutes dans les villes mixtes israéliennes.
Alors revenons à la figure de Naftali Bennett. Comment va-t-il faire pour composer avec des partis qui ne sont pas du tout dans sa ligne ?
Ce gouvernement ne tient qu'à un fil. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibriste pour Naftali Bennett qui va devoir faire ce que l'on fait toujours dans une démocratie parlementaire, c'est-à-dire trouver des compromis, aller vers aussi dans ce qui est aujourd'hui l'urgence pour Israël, c'est-à-dire les dossiers sociaux, les dossiers économiques, c'est-à-dire les finances. Évidemment, le plus grand péril pour lui, ce serait qu'un événement extérieur ou un dossier brûlant, par exemple comme la question des religieux ou bien évidemment la question palestinienne, eh bien arrive sur le devant de la scène, parce que la coalition est tellement hétéroclite que ça l'obligerait à prendre position et sans doute à susciter des controverses, des débats, voire des scissions à l'intérieur de la coalition.
Parlons enfin de Benjamin Netanyahou, qui se retrouve maintenant chef de l'opposition. Quelles sont ses ambitions ?
Aujourd'hui, Netanyahou cherche à rester au pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est pour lui une question de survie. C'est la promesse qu'il va échapper à la prison et à son sort judiciaire. Vous savez que Benjamin Netanyahou a aujourd'hui un procès en cours au tribunal de Jérusalem pour 3 affaires, dont 2 affaires de corruption. Il va tout de suite lancer des primaires pour bien sceller sa place comme chef de l'opposition, alors qu'aujourd'hui, à l'intérieur de son parti, le Likoud, eh bien, les appétits sont aiguisés et beaucoup voudraient le voir partir. Lui reste à ce poste et il va, d'une certaine façon, rester au pouvoir, rester sur la scène politique en étant le premier opposant, le plus dur à Naftali Bennett, pour chercher chaque jour la faille, et il y en a beaucoup, dans cette nouvelle coalition, et faire tomber le gouvernement.
C'était l'analyse de Frédéric Skilo sur le nouveau gouvernement israélien. Historienne spécialiste d'Israël et des relations internationales, elle était interrogée par Adélaïde Patrignani, était ce matin l'invitée du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h. D'ici là, je vous souhaite une très belle matinée. Au revoir.